Chapitre 33. Anna Ruben, suite. 1970. Il faisait partie de ceux qui n'étaient pas revenus, les spectres dont on parlait peu, ceux dont on ne récupérerait jamais la dépouille. On érigerait des monuments, on graverait leurs noms, on ferait des documentaires, des commémorations, on organiserait des visites de l'enfer pour la mémoire, mais jamais plus on ne les toucherait du bout des doigts. Où sont tes parents? Morts à la guerre. Une guerre qui n'avait pas rendu ses disparus. Une guerre sans tombe. Morts à la guerre. Presque une formalité. Et on passait à autre chose. Anna ne rentrait jamais dans les détails, même si elle était pleine de questions. Myriam, Sacha, Raphaël et Agnès seraient pour toujours des fantômes d'Hitler, parmi les millions de fantômes. Anna était là, devant le piano. Jean et Colette à ses côtés, surtout Jean. Colette était restée à l'arrière, dans l'embrasure de la porte, les laissant presque seuls, côte à côte. Le piano. Preuve matérielle de leur passage sur cette terre. Plus encore que les quelques photographies sauvées in extremis après le passage et le pillage des Allemands dans l'appartement. Anna n'osait ni bouger, ni toucher le bois noir. Jean Septembre lui avait donné rendez-vous à la gare, une semaine après leur première rencontre. Ils avaient fait le voyage en silence. Anna ne savait pas quoi penser de ce piano ressuscité, mais savait déjà ce qu'elle pensait du pianiste. « S'il vous plaît, Jean, pouvez-vous jouer ?» lui avait-elle demandé quand elle s'était retrouvée face à l'instrument. Jean s'était exécuté en demandant à Anna si elle avait une préférence. Elle avait secoué la tête. Ils étaient tous les trois dans le foyer municipal. Le Steinway trônait en maître. Beauté incongrue dans cet édifice désuet. Colette restait toujours en retrait. Anna aussi avait gardé une certaine distance, tandis que Jean avait choisi une sonate de Chopin. Anna avait imaginé tour à tour Raphaël et Agnès au clavier. Sa mère au piano, Raphaël derrière elle, les mains sur ses épaules, un baiser déposé sur sa nuque. Son frère et sa sœur caressant malicieusement les touches pour s'amuser, attendant impatiemment d'être assez grand pour faire pareil. Agnès avait dû jouer enceinte d'elle. Anna avait dû entendre les notes au creux de son ventre. Que restait-il de ces instants? Et elle, Anna, avait choisi le violon comme sa mère adoptive. Elle avait hérité d'une autre forme d'expression. Qu'allait-elle faire de ce piano? Ce Steinway lui appartenait, mais n'appartenait-il pas davantage à Jean et Colette Septembre? À cette ville, à ses habitants qui avaient permis à leur enfant prodige d'accéder à des études de musique? Aux vivants? Qu'auraient souhaité ses parents s'ils étaient revenus? Se seraient-ils réjouis que leur piano ait changé le cours du destin d'un enfant? Un enfant qui avait grandi et dont elle, Anna, était instantanément tombée amoureuse devant une choucroute et un verre de Riesling? Quelle ironie, la vie! Ce jour-là, Anna avait été plus bouleversée par Jean et Colette que par ce piano inconnu. Lui aussi représentait un des fantômes d'Hitler. Elle avait été troublée par l'amour pudique qui unissait le frère et la sœur, par l'admiration que Colette portait à Jean lorsqu'il jouait. Il était indéniablement son idole. Ils avaient déjeuné tous les trois au restaurant avant que Jean et elle repartent. Autour de la table ronde, ne sachant quoi se dire. Un frère et une sœur taiseux et timides, chacun dans son monde, mais où régnait le même silence. Des mots retenus. Ils ne parlaient pas pour ne rien dire. Et jamais leur silence n'était oppressant. On s'y plaisait, on s'y sentait bien comme au bord d'un lac. Anna était perdue. Ne sachant que faire du piano, mais souhaitant lier son destin au Septembre. Dans le train du retour, elle n'avait prononcé qu'une seule phrase. « Je vais annuler mon mariage. » Sans l'interroger, Jean l'avait fixée de ses grands yeux clairs et lui avait souri comme un enfant sourit à la vie, à la chance qu'il avait toujours eue. C'est Anna qui avait fait le premier pas un soir de février 71, après un concert. Le hasard les avait réunis à Prague. Ils s'étaient retrouvés sous l'horloge astronomique, sous le calendrier, la lune et le soleil. « Prague, c'est parfait pour embrasser l'homme que j'aime », s'était-elle dit. Elle avait attendu que l'horloge entre en action à 23 heures. Et ils étaient si occupés à s'embrasser, à 23 heures et une seconde, qu'ils n'avaient pas vu la marche des apôtres, les sculptures poursuivies autour du cadran par la statue de la mort. Après ce langoureux baiser, elle lui avait proposé un dernier verre. Jean l'avait suivi. En guise de dernier, il avait été le premier partagé avant de nombreux autres. En décembre 71, Jean avait quitté le domicile des Lévitans pour s'installer avec Anna dans l'immeuble d'en face, au troisième étage. Depuis sa nouvelle cuisine, il pouvait voir Eléa Lévitan faire la poussière dans son salon. Il était passé de l'appartement de son professeur à celui de sa future épouse en quelques secondes. Il n'y avait pas eu de transition entre l'enfance et l'âge adulte, une simple rue à traverser. C'est à partir de cette période qu'Anna et Jean ont toujours eu des valises prêtes pour repartir le lendemain. En janvier 72, Anna n'avait pas pu se rendre à l'anniversaire surprise d'Alain Terzieff. Elle avait été engagée comme troisième soliste dans le Grand Orchestre de Vienne, une consécration. Une tournée de 6 mois qui s'était terminée après une course effrénée. Cette année-là, il s'était retrouvé où il le pouvait. Après cette soirée où Jean devait jouer pour son ami, il avait avoué à Anna qu'il avait passé la nuit avec une autre femme. Jean ne savait pas mentir. Anna aurait préféré qu'il sache. Mais on ne refait pas ce qu'on aime. Ou alors c'est qu'on ne les aime pas vraiment. Il n'avait jamais revu l'inconnu. Comme dans l'histoire de Cendrillon, elle avait disparu sans laisser de nom ni d'adresse, s'éclipsant au coin d'une rue. Il aurait pu retourner au cabaret, mais ne l'avait pas fait. Pour Anna, par peur, par timidité. Anna avait pardonné à Jean. Et jamais il n'en avait reparlé. Parfois, quand un des silences de Jean durait trop longtemps, elle se demandait s'il pensait à la fille du cabaret. Le Steinway est resté au foyer municipal. Sur une plaque en laiton, à l'entrée de la salle polyvalente, on peut lire « Ce Steinway a été le piano d'apprentissage de Jean Septembre, 1950-1987. Il a été offert à la ville de Gueugnon par la famille Ruben, victime de la folie nazie.